bienvenue. Vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. Dans l'épisode 3, nous abordons la circulation des décisions prévues dans le règlement Bruxelles 1 bis. Dominique Foussard, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ancien président du Comité français de droit international privé. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer l'objectif de la circulation des décisions ?
Alors, pour que les relations internationales soient harmonieuses, il faut que les décisions circulent. Pour qu'elles circulent, il faut qu'on les reconnaisse et qu'on leur confère une force exécutoire. Reconnaître une décision, c'est conférer à une décision étrangère une autorité équivalente à la décision française. Elle est assimilée à la décision française. Et reconnaître à une décision étrangère un caractère exécutoire, c'est tout simplement dire que cette décision étrangère, elle pourra être exécutée en France comme une décision française et être à la base d'une mesure telle qu'une saisie.
Quels sont donc les principaux apports du règlement Bruxelles 1 bis ?
Alors, pour envisager les apports, il faut, je crois, distinguer les apports par rapport au droit commun et les apports par rapport à l'instrument qui précédait Bruxelles 1 bis. Alors, l'apport par rapport au droit commun est le suivant. En droit commun, il faut saisir un juge pour que le jugement étranger soit reconnu. Il faut saisir également un juge pour que le jugement ait un caractère exécutoire sur le territoire français. Le jugement étranger, bien sûr. Tout ça disparaît avec le règlement. Il n'y a pas de formalité, on n'a pas besoin d'aller devant un juge. Le jugement étranger est reconnu automatiquement et il est automatiquement exécutoire. Donc c'est un gros progrès. L'apport par rapport au règlement Bruxelles 1, il est moins net, puisque déjà la reconnaissance était admise de plein droit. En revanche, avant ce règlement, pour exécuter par des mesures d'exécution forcées une décision de condamnation étrangère, il fallait solliciter du juge une décision d'exéquature. Ça n'existe plus, puisque le jugement, dans le champ de l'Union européenne, est exécutoire de plein droit.
Que doivent faire les praticiens pour faire reconnaître et exécuter une décision française dans un État membre ?
Alors, les praticiens doivent tout d'abord avoir en tête les dispositions du règlement que nous invoquons, évidemment. Alors, ça veut dire le règlement lui-même, les considérants qui le précèdent, qui éclairent souvent le règlement. Il faut aussi avoir en tête l'annexe 1, qui comporte un certificat dont je vais vous parler dans un instant, et puis quelques informations pratiques qui sont très facilement fournies sur les sites internet, etc. À titre incident, il peut être très utile de consulter le réseau judiciaire européen, et puis le portail Justice Europe. Ces instruments sont extrêmement utiles pour les praticiens, car ils leur fournissent pratiquement très aisément tous les renseignements qui leur sont nécessaires. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique ? En pratique, pour qu'un jugement étranger soit reconnu, il faut évidemment avoir le jugement, la copie du jugement, et il faut en outre avoir un certificat qui est délivré par la juridiction étrangère qui a rendu le jugement. C'est sur la base de ces instruments que l'on peut, en pratique, invoquer le jugement étranger. Alors, quand on veut obtenir l'exécution provisoire, il y a une petite différence, c'est que le certificat étranger doit attester, en même temps, du caractère exécutoire à l'étranger de la décision étrangère, ce qui est normal, puisque un jugement qui ne serait pas exécutoire à l'étranger ne peut pas l'être en France.
Quels documents sont nécessaires pour faire circuler une décision ?
Le jugement étranger, bien sûr, c'est un document qui est capital. Le certificat qui décrit le jugement et qu'on demande à la juridiction qui a rendu la décision, la juridiction étrangère. Et éventuellement, on peut vous demander une traduction. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple du notaire. Il liquide une société, il y a un jugement de condamnation à l'étranger. Il suffit d'exhiber devant le notaire le jugement et le certificat. En revanche, si vous sollicitez un huissier de justice pour ramener à exécution une décision, pour faire une saisie, vous avez besoin de la décision, bien sûr. Vous avez besoin d'un certificat qui est un peu plus complet parce qu'il doit attester que la décision étrangère est exécutoire à l'étranger. Et puis, on va vous demander en outre, éventuellement, une notification. car on ne peut pas pratiquer une saisie sans signification ou notification préalable de la décision qui sert de base à la saisie. Et alors, à ce moment-là, il faudra que la partie qui saisit l'huissier ou l'huissier de justice lui-même procède à une notification en se conformant au règlement européen. C'est un règlement de 2007 jusqu'à présent, ce sera bientôt le règlement de 2020 qui entrera en vigueur en juillet 2022 et qui indique comment, au sein de l'Union européenne, on procède aux notifications. Voilà les documents qui sont nécessaires, selon les hypothèses, et le juge, éventuellement, pourra vous demander une traduction.
Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs s'il y a une possibilité de contestation ?
Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous voulez, le règlement est parti de l'idée qu'il fallait faciliter la circulation des décisions. C'est l'objectif premier. Mais il est quand même soucieux de respecter les droits de la partie qui a été condamnée par la décision étrangère. Donc on ménage certaines voies de recours à cette partie. Simplement, dans le fort d'accueil, dans l'État qui accueille la décision étrangère, les possibilités de contestation sont tout à fait réduites. On ne peut pas refaire la procédure qui a eu lieu à l'étranger, et les possibilités de contestation sont limitées à trois points. La conformité à l'ordre public international, le respect des droits de la défense à l'étranger, il faut notamment que la partie condamnée ait été à traite dans des conditions régulières, et troisièmement, il ne faut pas que le jugement étranger soit inconciliable avec un jugement français ou avec une décision étrangère antérieure qui serait susceptible de reconnaissance. Et alors à ça, il faut ajouter une chose qui est très importante, c'est que pour la partie condamnée, son champ de contestation, comme vous avez pu le voir, est assez réduit. Et si cette partie veut vraiment ouvrir la contestation, il faut qu'elle use de toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes, mais dans le fort étranger. Tout est concentré dans le fort étranger.
D'autres règlements existent. Comment le règlement Bruxelles 1 bis s'articule-t-il avec les autres règlements ?
Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'autres règlements, succession, en matière de régimes matrimoniaux, partenariat, insolvabilité. Et tous ces règlements sont articulés autour de trois thèmes, la compétence, la loi applicable et les décisions. On a donc des dispositions spéciales pour les décisions dans les matières que je viens d'évoquer. Et évidemment, le règlement Bruxelles 1 bis n'est pas applicable dans les domaines que je viens d'évoquer. Simplement, il faut tout de même se souvenir que le règlement Bruxelles 1 bis est un modèle et que, généralement, les autres règlements s'inspirent de ce qui se fait dans Bruxelles 1 bis.
Merci Dominique Foussard.
Merci beaucoup, madame.
Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.